Nous nous réjouissons de passer cette soirée, et je pense aussi la suite dès demain avec vous. Peut-être deux petites remarques pour introduire ce thème à la fois merveilleux et ambitieux de recréer le monde. La musique, finalement, n'est pas en terre étrangère par rapport à ce sujet. Car si je ne prends que l'histoire du siècle dernier, il y a eu énormément de tentatives, d'expérimentations pour recréer le monde au niveau du langage musical, la seconde école de Vienne, sans parler après la Seconde Guerre mondiale, des jeunes générations qui ont essayé d'étendre à tous les paramètres de la musique les recherches sur le nouveau langage, sans parler des conquêtes, par exemple, comme la spatialisation, l'espace, qui ont entraîné des compositeurs à viser à casser le cadre traditionnel du concert, avec des grands chefs-d'œuvre au XXe siècle. Les mutations technologiques ont également montré que la musique était presque en avance sur ce qui s'est opéré dans d'autres arts. L'engagement politique a été aussi pour la musique une autre façon de recréer le monde. Je pense notamment à un compositeur comme Luigi Nono, dont nous avons donné l'un de ses chefs-d'œuvre ici dans la salle à côté. Ce n'est pas forcément une vision d'ailleurs linéaire et uniquement ancrée dans l'idée du progrès qui a conduit la musique à vouloir situer sa création. Il y a aussi d'autres façons de penser. Je pense à ce qu'a pu introduire un compositeur comme John Cage dans la remise en cause de la vision de l'artiste et du génie, ou je pense à des courants américains répétitifs qui ont essayé de repenser le temps musical. Il me semble donc que la musique, ou peut-être toute forme de création, porte en elle cette question de rupture presque, en même temps que cette idée de rupture est indissociable de la question de la mémoire et de la manière dont les traditions et les formes du passé sont présentes dans toute forme de création. Le second élément que je voulais évoquer, c'est celui qui a trait à l'histoire de ce lieu même, puisqu'il a souvent été énoncé comme un lieu qui a voulu recréer, repenser un nouveau modèle musical. Effectivement, au départ, nous avions quatre idées majeures. La première concerne le développement urbain. Tous les lieux de concert classiques se situent dans les centres-villes ou dans les quartiers aisés des grands centres urbains. C'est le premier exemple d'un lieu dans le monde occidental, je ne parle pas des mégalopoles asiatiques, mais dans le monde occidental ou nord-américain, qui essaye de se situer dans un dialogue entre le centre et les populations habitantes dans les zones plus périphériques. Donc là, il y a un enjeu important de déplacement. Le deuxième enjeu concerne le modèle culturel. Les lieux de théâtre comme de musique classique sont des simples lieux de concert. Ici, l'idée était de proposer d'autres modes d'appropriation de la musique qui peuvent passer par des expositions temporaires, un musée de la musique, des débats, des conférences, des ateliers en tout genre, intergénérationnels pour les enfants. Et c'est dans cette relation que les musées avaient d'ailleurs emprunté avant nous que s'opère l'esquisse d'un nouveau modèle appliqué au spectacle vivant. La troisième donnée était de considérer que la musique classique pouvait être prise à son propre piège de la spécialité en ne se donnant que de manière homogène, ce qui très vite a entraîné un rétrécissement sur le seul 19e siècle, avec des marges vers le contemporain ou le baroque, et de temps en temps une ouverture, on ne sait pas trop pourquoi, vers le jazz ou les musiques du monde. On ne sait pas pourquoi, parce que ça ne fait pas sens, non pas parce que ce n'est pas bien. Et donc ici, il y a une confrontation constante entre tout le spectre historique occidental, confronté à des musiques venant de tout continent et également à de nombreuses expressions populaires. Enfin, le dernier élément concerne la dimension sociale. C'est un projet qui, par certains éléments, accueille les plus grands orchestres du monde, donc peut être perçu comme un lieu de prestige, de représentation officielle que nous assumons, mais parallèlement, nous essayons à la fois de proposer des modèles économiques opérants qui permettent à des publics qui ne disposent pas de moyens financiers de venir au concert, parce qu'il y a toujours une offre tarifaire qui favorise soit la présence d'un public jeune, soit la présence d'un public qui n'a pas les ressources financières suffisantes. Et nous allons jusqu'à avoir des pratiques très avancées, puisque nous avons créé des orchestres d'enfants dans des quartiers en difficulté, au début à la périphérie de Paris, et maintenant nous avons pour projet, dès 2016 et 2017, de créer une trentaine d'orchestres dans toute la France qui sont des enfants qui n'ont aucune connaissance de solfège au départ et qui attaquent directement l'apprentissage de la musique par le jeu instrumental en collectif. Et le tout, le plus souvent, dans des quartiers où il manque de ressources financières, car ce sont des quartiers en difficulté dans toutes les régions de France. Donc voilà, ce projet a été très critiqué comme étant une vision utopique, une volonté de recréer hors sol un peu des projets qui risquaient de mettre en cause l'existant. Pour ma part, les polémiques étant un peu clos avec l'ouverture du lieu et la venue très forte de publics très diversifiés, je considère au contraire que ce projet, sans être le modèle et le seul modèle unique, bien sûr, pour le futur, est un projet qui a une force collective certaine et qui peut justement ouvrir des voies nouvelles et tenter de relier ce que les usages de la société ont tendance constamment à diviser et à fragmenter. Voilà. Donc, bon colloque pendant toutes ces interventions autour de ce thème de recréer le monde. Et bien, je vous passe la parole.
Mesdames, messieurs, chers collègues, nous avons le plaisir de vous inviter à adhérer à l'Association des Amis de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, créée en 2012 et qui comprend déjà près de 1500 membres. Cette association a notamment pour but de contribuer au développement et au rayonnement de la Fondation en l'aidant par des contributions financières ou en compétences à développer ses activités scientifiques tant auprès du milieu académique que de la société civile, en France et dans le monde, et à les faire connaître. Elle entend réunir les très nombreux chercheurs et amis qui, depuis maintenant des décennies, ont participé à ces activités, que ce soit occasionnellement ou d'une manière plus institutionnelle, à commencer par ceux qui ont conservé avec la Fondation un lien professionnel, personnel ou affectif, qu'ils ne veulent pas voir se distendre. Deux catégories de membres de l'association vous sont proposées. Celle de membres, pour laquelle l'adhésion est gratuite. Celle de membres donateurs, qui ouvre droit à des déductions fiscales, pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient contribuer financièrement à l'association pour l'aider à réaliser ses objectifs. Aussi, nous serions particulièrement heureux que vous acceptiez de marquer votre soutien et votre attachement à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, à ses missions et à ses activités, en rejoignant l'association de ses amis par votre adhésion à l'une ou l'autre de ces deux catégories de membres. Ceux d'entre vous qui ne les reçoivent pas déjà se verront par là même adresser la lettre de la Fondation et l'agenda de ses activités. Pour nous rejoindre, il suffit que vous remplissiez le formulaire d'adhésion en ligne via un lien que vous trouverez soit sur une feuille de papier bleu qui sera dans le dossier qui vous sera remis demain, soit à la page Association des Amis sur le site de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, et pour les membres donateurs, que vous vous adressiez également un chèque ou un virement au nom de l'association ou que vous effectuiez ce virement selon les coordonnées qui vous seront données. Nous espérons très vivement que vous serez nombreux à nous rejoindre, marquant ainsi votre attachement à notre fondation et que vous prendrez plaisir et intérêt à ces 3 jours de colloque que l'Association des Amis a soutenu financièrement et matériellement. Nous vous remercions d'avance.
Merci. Laurent, ça marche ?
Oui.
Bonsoir à tous. Quelques mots très brefs, car c'est évidemment Edgar Morin que nous souhaitons entendre aujourd'hui. L'idée de ce colloque, elle a jailli lors de conversations que j'ai eues avec, d'une part, Clara Wagner et Stéphane Roth, que j'ai vu, qui était là tout à l'heure. Il est là-bas. Et d'autre part, avec Nicolas Cazaras, qui est ici même, du côté de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Et c'est une conversation dans votre bistrot, cher Laurent, à côté, avec l'idée qu'il fallait faire quelque chose ensemble, organiser la rencontre de nos deux univers, qui se croisent certes, bien sûr, mais enfin, l'organiser de façon un peu construite, l'univers de la musique, donc l'univers de l'art ou des arts, de l'esthétique, et l'univers des disciplines qui sont les nôtres, les sciences humaines, les sciences sociales. Et très vite, lors de cette rencontre, nous sommes tombés d'accord sur un certain nombre d'idées. Il fallait que la rencontre soit constructive, qu'elle soit tendue vers l'avenir, qu'elle soit ouverte au monde. Pas question de s'enfermer dans le seul cadre de notre État-nation. Et le thème de la création nous plaisait bien, beaucoup plus que celui de l'innovation. Nous avons rejeté le mot « innovation » qui nous semblait inapproprié. Alors pour une fondation comme la nôtre, c'était parfait. C'est parfait. Nous sommes une institution pluridisciplinaire. Ça ne veut pas dire du tout que nous méprisons ou que nous ne nous intéressons pas aux disciplines. Ça veut dire que nous croyons beaucoup au travail que mènent des gens qui peuvent relever de diverses disciplines pour aborder une question. Nous pensons qu'il vaut mieux mobiliser des compétences diverses plutôt que de s'enfermer dans des approches unilatérales. Mais la pluridisciplinarité, nous lui donnons un sens très large. C'est-à-dire que nous sommes convaincus de l'intérêt qu'il y a à travailler ensemble, non seulement entre disciplines des sciences humaines et sociales, non seulement entre disciplines d'autres domaines que le nôtre, mais aussi avec des compétences qui peuvent provenir de toutes sortes de domaines, qui peuvent faire en sorte que des acteurs et des analystes, des chercheurs et des praticiens, on peut le dire de mille et une façons, produisent ensemble quelque chose, et qu'elles le produisent, et que aussi ces personnes contribuent à la diffusion de ces connaissances. Un chef d'orchestre, un architecte, un musicien, un travailleur social, un médecin, etc., ne sont pas des chercheurs, en tout cas en tant que tels, mais rien ne leur interdit de coproduire des connaissances, de faire un bout de chemin ensemble avec des chercheurs et vice-versa. Alors, ça c'est la conversation de bistrot. Il fallait ensuite en parler à Laurent, qui a tout de suite été évidemment tout à fait partant, qui nous a encouragés. L'idée d'un colloque s'est précisée. Nous en avons parlé aux responsables, alors là, excusez le jargon, du SPC, Université Sorbonne Paris Cité, c'est-à-dire la communauté universitaire, j'ai oublié la suite, d'établissement, bref, un regroupement que la Fondation a rejoint il y a un an et demi à peu près, un regroupement qui comporte 4 universités parisiennes, Sciences Po, ce qu'on appelait l'ANGSO, qu'on appelle autrement maintenant, enfin bref, un certain nombre d'institutions qui essayent de construire ensemble quelque chose, et je salue Cathy Rousselet, que je voyais tout à l'heure, qui est ici, qui représente aujourd'hui ce regroupement, c'est elle qui est en charge de la recherche scientifique, et c'est avec elle aussi que nous avons monté ça, en même temps donc, comme Laurent vient de le rappeler, l'autre Laurent, je suis coincé entre deux Laurents, que nous avons monté ce colloque. Le président d'Université Sorbonne Paris Cité sera avec nous demain. Ce soir, il était coincé à une cérémonie qu'il ne pouvait absolument pas abandonner. Alors, je vais juste dire un mot sur le fond, mais pas plus. Longtemps, les sciences humaines et sociales d'un côté, les arts d'un autre côté, ont entretenu un rapport qui était fait essentiellement, lorsqu'il existait, d'intérêts mutuels. Des artistes qui expriment, qui perçoivent, qui ressentent des choses, qui ont quelque chose à voir avec le social, sur un mode qui leur est propre, des choses qui souvent sont moins bien dites ou perçues ou expliquées par les sciences sociales, ou autrement en tout cas. Et bien souvent aussi, des chercheurs trouvent dans des œuvres d'art matière à améliorer leurs analyses. Je peux vous dire, pour prendre mon cas personnel, que j'échange tous les rapports que j'ai pu lire quand j'ai passé un an à Washington pour étudier l'antiterrorisme et le terrorisme aux États-Unis. J'échange tous les rapports produits par ce monde de Washington contre Dostoïevski, Les Possédés, ou contre Albert Camus, L'homme révolté. On y apprend beaucoup plus. Et puis, un deuxième type de relation existe, c'est quand les chercheurs en sciences sociales veulent étudier la production ou la diffusion d'œuvres d'art, l'activité des artistes, les conditions de la reconnaissance de l'artiste, son œuvre, la diffusion, etc. Et là, on constate qu'il s'est développé depuis maintenant de nombreuses années une sociologie de l'art, une économie de l'art, enfin des travaux de recherche qui s'intéressent à l'art, en particulier d'ailleurs à la musique. Je salue Esteban Bourg que j'ai connu au moment où il publiait un livre que j'avais trouvé formidable, justement, sur la 9e symphonie de Beethoven et sur ses usages, hein, c'est sur ses usages politiques en particulier. Et puis, il y a un troisième mode de fonctionnement, c'est quand des gens qui sont du côté de la recherche et des gens qui sont du côté de l'art, je le dis de façon très vague exprès, décident ensemble de fabriquer quelque chose, de concevoir, de proposer quelque chose. J'allais dire pense de concert, c'est un mauvais jeu de mots, mais enfin, c'est-à-dire, oui, bien sûr, un chercheur peut avoir un don, un talent artistique, mais ce n'est pas ça du tout qui est en jeu. Lorsque travaillent ensemble des chercheurs et des artistes, il peut en sortir des choses extrêmement intéressantes. Donc il y a au moins trois modes de relation possibles entre nos deux univers. Et je crois que de notre colloque devraient naître des idées, des réflexions sur justement ces trois modes de relations possibles. Et il y en a peut-être d'autres d'ailleurs, j'ai été extrêmement rapide. Donc je voudrais vous dire qu'on est très heureux d'être dans ce nouveau temple. Merci Laurent. Je voudrais remercier aussi Magali et Pascal, je ne les vois même pas. Pascal est là-bas et Magali, je ne sais où, je ne la vois pas, qui ont vraiment œuvré avec leurs équipes à ce que cette rencontre se déroule. Bien. Et maintenant, je salue Edgar Morin. Alors, Edgar, je vais me mettre à côté de lui. C'est très pratique parce qu'on ne présente pas Edgar Morin. Donc, on a juste à lui dire bonsoir, à lui dire qu'on est très, très heureux de l'écouter, de l'entendre. Et donc, il est 7h05. Donc, nous avons convenu qu'il termine à peu près sa conférence vers 7h45. De façon à ce qu'il nous reste entre 10 minutes et un quart d'heure pour un échange qui sera nécessairement bref, mais quand même qu'il puisse répondre à deux ou trois interventions. Donc, sans plus tarder, je lui donne la parole en le remerciant d'être parmi nous ce soir.